Les Cascodeurs Podcast, épisode 290. Mettre tes lunettes dans ta base de données. Enregistré le 13 janvier 2023.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Comment allez-vous? Bonne année.
Bonne santé.
Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume, donc Arnaud et Guillaume.
Oui, c'est moi.
C'est le duo.
Ouais.
Le duo
les vieux de la vieille.
Les vieux de la vieille. Pour cet épisode de rentrée de janvier, nous sommes le 13 janvier. On va reprendre, comme à l'accoutumée, nos différentes rubriques. On va commencer avec les langages. Beaucoup de nouvelles sur les langages et pas que du Java. On va essayer justement de continuer à se diversifier, à pas se focuser uniquement sur langage, sur Java. On va quand même commencer avec un petit peu de news côté OpenJDK avec le projet.
Je vais pas le réussir. Galahad.
Alors c'est donc l'OpenJDK qui propose un nouveau projet, le projet Galahad, pour fusionner en tout cas une partie dans OpenJDK de certaines parties de GraalVM Community Edition. Donc là, vous avez mis un article de InfoQ qui couvre ça. Alors, juste pour revenir sur un petit peu d'historique, à un moment, donc je sais plus, c'était dans Java 10 ou un truc comme ça, je sais plus, où ils avaient commencé à mettre, donc Java 9, vous avez commencé à mettre quand même dans le projet OpenJDK de JEP, qui était relative à ce qui a été fait et développé dans le projet GraalVM, mais qui avait été par la suite supprimé. Et donc là, on va revenir au sein du projet OpenJDK différentes choses. Alors, c'est pas tout GraalVM, hein, mais en particulier donc le JIT compiler qui va être réintégré et qui pourra être utilisé comme une alternative à C2. Et aussi peut-être plus tard, mais du coup je pense que ce sera pas forcément dans JDK 20 là qui est là. Ce sera la compilation AOT pour faire en sorte que voilà, il puisse le JIT compiler puisse démarrer instantanément au démarrage de la JVM. Donc ça a l'air d'être intéressant de faire en sorte que ce soit déjà intégré dans le projet plutôt que à part et gérer des toolings différents avec des cycles de vie différents. Donc là, au moins cette base-là, en tout cas, suivra le même cycle de vie, release, etc., que OpenJDK. Donc Galahad. J'hésite à faire des jeux de mots, tu vois, Galahad, ça me fait penser au chocolat Galak. Et ça me fait penser aussi au bonbon régalade que j'adorais quand j'étais gamin. C'est pour ça que j'ai eu plein de caries. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose finalement.
Bon, je pense qu'on en reparlera. Tu auras le temps d'affiner tes jeux de mots.
Mais tu vois, j'ai quand même eu le temps de me laver les dents juste avant de faire l'enregistrement. Parce que j'ai fait attendre Arnaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait attendre Arnaud pour le début de l'enregistrement parce que j'étais encore en train de me laver les dents. Et oui, voilà. Vous savez tout maintenant, chers auditeurs.
Bon, parfait. Donc on sort de la JVM en gardant quand même, alors on va garder quand même toujours un petit axe, déjà Java avec des articles sur Rust, alors Rust d'une manière générale avec un article de Google et des articles qui viennent d'Alex Snap où là il a fait du Rust pour Java.
Ouais, donc Alex donc qui est un développeur Java repenti et rouillé du coup, Rust rouille, donc Alex, ça fait un petit moment là qu'il fait du Rust et puis qui tourne aussi avec une présentation sur le thème de Rust, mais pour les développeurs Java. Donc quand on vient de Java, ça veut dire quoi de se mettre à Rust. Et j'ai vu d'ailleurs son talk à Devox Maroc, parce que j'étais aussi à Devox Maroc avec lui, et il l'a refait aussi en Belgique. Et il explique bon les différences un petit peu de base de syntaxe, mais aussi en particulier et il plonge d'ailleurs dans le deuxième article encore plus là-dedans. Il couvre aussi tout ce qui est gestion de la mémoire, qui est vraiment différent d'un langage garbage collecté, parce que il y a des notions de donc ce qu'ils appellent le borrowing, l'emprunt de mémoire. Enfin, je sais pas, ouais, si ça se traduit.
Oui, la réservation.
Il y a un terme, ouais, réservation. Ouais, mais c'est plus que. Ouais, c'est différent de la réservation, parce que réservation, c'est. Tu peux faire un malloc.
Ouais.
C'est une réservation de mémoire. Alors que là, c'est pas pareil.
C'est ça.
Et aussi, et donc, de ownership, c'est-à-dire que un bout de données, quoi, n'appartient qu'à une personne, mais il peut y avoir éventuellement plusieurs lecteurs, où on peut aussi bouger l'ownership à qui appartient telle donnée à quelqu'un d'autre. Donc ça va être plutôt plus, même s'il le couvre déjà un peu dans la première partie, il va un petit peu plus en détail là-dessus dans la deuxième partie. Donc si vous avez envie d'apprendre Rust, c'est intéressant parce que il montre assez bien les choses auxquelles faire attention et etc. Donc voilà, c'est un bon article. Après, c'est quand même, donc c'est assez long, c'est assez avancé, et si on n'a pas déjà commencé quand même un petit peu à regarder ou à lire sur Rust, je trouve que assez rapidement, j'étais un peu perdu sur tout le
à la ça pique.
Deuxième article, même s'il explique bien. Et donc oui, tu disais Google aussi, alors c'est pas un article, hein, mais Google a sorti la formation qu'on a nous en interne chez Google pour apprendre le Rust. Et ben cette formation là a été mise en libre accès sur GitHub, là. Donc si vous voulez apprendre le Rust comme nous on peut l'apprendre chez Google, vous pouvez suivre cette formation là. Alors à l'origine, je pense parce qu'en fait le dernier chapitre de la formation, c'est sur Rust utilisé dans Android. C'est vraiment sur, on va dire, 4 jours de formation. C'est le 4e jour. Donc, suivez les 3 premiers si vous ne faites pas de Android. Et si Android vous intéresse, éventuellement, vous pouvez rajouter le 4. Et donc, c'est plutôt cool qu'on sorte comme ça des choses sur Rust. Après, il y a pas mal d'autres... Alors, on n'a pas mis ça dans les news, mais il y a pas mal d'autres activités, d'autres news autour de Rust aussi, sur l'intégration. Donc, on en a déjà parlé de Rust dans le noyau Linux. Mais là, par exemple, juste aujourd'hui, par exemple, Chromium parle de rajouter aussi Rust dans Chrome, en particulier pour l'utilisation des librairies, etc., pour pas trop mélanger C++ et Rust pour l'instant. Donc voilà, beaucoup d'activités, en tout cas autour de Rust.
Et de quoi apprendre pour ceux qui veulent se former sur le sujet. Donc voilà.
Exactement.
Allez, on va revenir quand même à ton sujet de prédilection, celui que tu aimes, ton bébé, Apache Groovy.
Ça pourrait être... Ah oui, Groovy. Donc il y a mon pote Paul King qui a fait un article en fait de rétrospective un petit peu sur tout ce qui s'est passé en 2022 pour Groovy. Donc déjà la grosse news c'était quand même donc il y a un an maintenant, presque un an, c'était la sortie de Groovy 4.0. Et puis là, on en est maintenant à 4.07. Donc, il y a eu plein de petites releases avec tout un tas d'améliorations. Paul King nous parle aussi des nombreux téléchargements qu'il y a de Groovy. Et apparemment, ce serait en 2022 la première année où Groovy surpasserait les 1 milliard de téléchargements en une seule année, ce qui est énorme. C'est assez hallucinant.
Bravo.
Il donne aussi des liens vers tout un tas d'articles qu'il avait écrits autour de l'utilisation en fait de Groovy et dans le cadre aussi d'articles sur le machine learning, sur data science, etc. Qu'il avait fait plein d'articles qui étaient sympas que j'avais déjà mentionnés hein, dans les casques audio. Paul revenait aussi sur la conférence ApacheCon qui avait eu lieu à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et où il y avait donc une track dédiée à Groovy et l'écosystème Groovy, lors de la conférence. Quoi.
Voilà. Super. Bon, comme quoi, même les anciens langages, les Java, les Groovy, etc.
Ils vivent bien. Mais il y a toujours pas mal de mal d'actualités.
Ils ont leur vie et ils vivent bien. On va parler de WebAssembly, c'est plus récent obligatoirement, mais ça c'est super super top top. Tout le monde veut en faire et tout le monde veut y toucher.
C'est clair. Donc là, il y a d'ailleurs, attends, c'est qui a écrit l'article, je sais plus. Enfin, pour lors de donc au mois de décembre, c'est assez classique les calendriers de l'Avent. Donc il y a par exemple Advent of Code, si vous voulez faire des petits puzzles, des algos et tout ça, moi je l'ai fait là cette année, en Groovy évidemment. Je voulais apprendre le Rust et je me dis allez, je vais le faire en Rust, et puis en fait tu sais, quand tu maîtrises à fond un langage, tu mets vachement plus de temps à sortir même des trucs tout ça, donc finalement je l'ai quand même refait en Groovy. Et donc Paul King, toujours lui, parce que il avait fait un article aussi pour le calendrier de la rampe. Mais là, qui c'est qui a écrit ça?
C'est Eduardo Vacci. Donc, obligatoirement, je le prononce mal.
Eduardo Vacci. Un Italien. Enfin, ça sonne italien, en tout cas. Qui a écrit un article donc sur WebAssembly, mais pour le geek Java. Donc, il rappelle ce qu'on avait déjà mentionné, d'ailleurs, dans les épisodes précédents, la technical preview de Docker plus WebAssembly. Le fait de pouvoir packager sous forme de container, en fait, un exécutable WebAssembly. Et après, il parle des différents mythes qu'on peut avoir autour de la JVM et par rapport à WebAssembly quand on compare un petit peu l'écosystème. Donc, la JVM, c'est une cible de compilation polyglotte multilingue, ce qui n'est pas forcément vrai. Oui, il y a eu plein de langages qui ont ciblé la JVM et le bytecode, mais cette plateforme, à l'origine, n'avait été pas vraiment pensée pour ça. Hein. Donc, il parle de ça, il parle de GraalVM aussi. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Deuxième mythe, c'est encore, donc WebAssembly, c'est juste encore une autre VM de langage orienté stack-based, pas register. Donc il dit non, c'est pas vrai. Il montre quelques exemples, comment ça se traduit en instructions WebAssembly, enfin des trucs de base, genre des if-then-else, des choses comme ça, et il contraste avec Java. Aussi tout ce qui est gestion de la mémoire. Là aujourd'hui, par exemple, dans WebAssembly, alors il y a une proposition pour ajouter la garbage collection, mais aujourd'hui il y en a pas. Donc faut, si on fait du Java to WebAssembly, comment est gérée la mémoire, par exemple. Il mentionne aussi, voilà, WebAssembly, c'est plus que pour le web, même si dans WebAssembly il y a web. Et après, alors les problèmes de portage de Java, donc il y avait la gestion de la mémoire, comme je disais. Pour l'instant, il n'y a pas encore non plus de support des threads, même si, encore une fois, c'est une proposition d'extension à WebAssembly. La gestion des exceptions se fait différemment. Et après, il finit l'article avec Java sur WebAssembly. Donc il y a différents projets bytecoder, G WebAssembly TVM, une autre VM qui transforme, voilà, des projets pour transformer du bytecode en WebAssembly. Et aussi d'autres projets qui compilent finalement du Java vers par exemple du JavaScript, comme J2CL chez Google ou Kotlin Native par exemple. Mais donc c'est une étape intermédiaire en plus avant d'arriver vers du WebAssembly. Et après, il parle aussi de comment faire tourner du WebAssembly dans la JVM ou à partir d'une JVM. Donc on a une application Java qu'on veut étendre avec du WebAssembly. Donc par exemple aujourd'hui, alors c'est pas en Java, mais le Envoy Proxy par exemple, on peut créer des plugins en WebAssembly. Donc l'idée, c'est, si on a une appli JVM, pourquoi pas l'étendre avec du WebAssembly. Et donc il termine par couvrir quelques projets, ou même il parle de GraalVM et de son implémentation WebAssembly dans Truffle, qui permet de faire de l'interprétation de WebAssembly. Et donc on peut appeler ces intégrations-là pour faire tourner et exécuter du WebAssembly à partir de son application Java. Voilà. Donc des pistes à suivre si ça vous intéresse, Java et WebAssembly.
Voilà. Et pour terminer la partie langage, alors un article qui était assez intéressant parce que, on va dire, en dehors des normes sur TypeScript. TypeScript, on en parle régulièrement dans les articles de blog et partout. C'est magique. Faut arrêter JavaScript. Faut faire du TypeScript partout. On va tout typer. Tout va être modularisé. Et donc, dans cet article, c'est un article plus critique qui, justement, va expliquer, en quoi TypeScript, oui, c'est sûr, c'est bien, c'est différent, mais pas que, ça a des travers un peu négatifs, hein, qui peuvent être vus comme négatifs dans certains cas.
Donc par exemple, donc là finalement c'est plutôt TypeScript, parce que tu y tapes dessus plutôt que TypeScript, c'est ça?
C'est ça,
TypeScript. Donc par exemple, dans les points cités, on a la courbe d'apprentissage, parce que c'est forcément, ça rajoute des choses en tout cas à JavaScript. Il parlait aussi de la baisse de productivité, parce que voilà, souvent quand on rajoute un peu plus de type de requête, alors là ça va être l'avocat des langages dynamiques qui parle, mais pas que, parce que le fait que la complexité, la verbosité des types fait que des fois on essaie de faire plus plaisir au compilateur. Même si en théorie ça devrait aider à attraper toute une gamme de problèmes qu'on n'aurait pas au runtime, etc. Enfin ça, c'est, je trouve que c'est toujours un petit peu un mythe de dire ça, mais du coup on a une baisse de productivité du développement à cause de ça. L'auteur trouvait qu'il y avait aussi un certain manque de flexibilité, ou aussi, donc je disais c'est une extension à JavaScript, mais c'est pas non plus un surensemble à 100% de JavaScript. Donc il y a des choses en plus, oui, mais il y a quelque chose en moins. Et est-ce que on perd pas aussi en temps, par exemple, le temps de compilation est plus long, parce qu'il y a plus de choses à checker, à vérifier pour le compilateur. Et est-ce que quand on fait voilà du TypeScript, on perd, tu sais, c'est comme ça me fait penser toujours, c'est XKCD donc qui avait fait ça, tu sais, la BD où t'as deux mecs qui sont en train de se battre à l'épée sur leur fauteuil dans leur bureau, ouais. Et t'as le chef qui arrive et qui dit ouais bon, qu'est-ce que vous faites? Non mais c'est en train de compiler là. Ah bon, c'est ok, continuez de jouer. Et voilà, est-ce qu'on perd aussi là peut-être éventuellement un petit peu en temps, parce qu'on a des compilateurs un peu trop voilà, qui prennent du temps.
C'est ça. Donc bon, c'est pas la solution magique, mais bon. Après, enfin, personnellement, je reviendrai pas trop en arrière, mais j'avoue.
Ouais, non, je pense que c'est une bonne.
Il y a de la marge d'amélioration, c'est évident. Et puis, on le sait bien, plus il y a de structure, plus ça va être compliqué de naviguer dedans, ça va ralentir les devs, etc. Mais bon, voilà, un prix à payer, la qualité.
Et je me demande où on est. On en avait parlé encore une fois dans un autre épisode. Il y avait une proposition de Microsoft aussi pour rajouter juste la partie de TypeScript, qui est l'annotation de type, quand tu types tes variables, etc. Donc un sous-ensemble de TypeScript. Je sais qu'il y a un projet en cours là-dessus, ça devait être une proposal. Alors il y a différents niveaux là dans les proposals ECMAScript pour le faire évoluer. Mais ça pourrait être intéressant de revoir ça à l'occasion. Enfin bon, en tout cas, si on voit des news qui passent sur le sujet, évidemment, on en parle.
Oui. Et n'hésitez pas à nous en faire part aussi si vous en voyez.
Ouais.
Vous faire des crowdcasts.
N'oubliez pas les crowdcasts. Exactement. C'est ça.
Alors, on ne peut pas tout couvrir. Hein, voilà. Passons aux librairies. Micronautes est sorti en version 3.8.
Ouais, version 3.8. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot? On a le support de GraalVM 22.3. Ça doit être la dernière, je pense. On a la possibilité aussi d'annoter des records avec at request bin, donc c'est-à-dire quand on fait le binding des paramètres de requête, des paths variables, etc. En fait, on ne devait pas pouvoir utiliser encore jusqu'à présent, je crois, les records pour ça. Donc là, maintenant, ça c'est, on va dire, c'est corrigé. Il y a eu aussi des petites améliorations du filtre Corse, donc non pas qu'ils aient peur des attentats Corse ou des explosions de bombes ou quoi que ce soit, mais quand on fait du Corse et qu'on développe, c'est nul, j'adore la Corse. J'espère que chers amis Corse qui nous écoutez, j'espère que vous m'autoriserez à revenir sur votre magnifique île.
Moi, je pensais au groupe de musique, tu vois, mais bon, tout de suite.
Ah, les cordes, c'est vrai. C'est une meilleure référence, c'est moins politique, moins. Donc, Corse, le filtre Corse, quand on l'utilise en fait en local, éventuellement, si ta machine genre pouvait être visible de l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur à ta machine aurait pu atteindre ton serveur à toi en local. Et du coup, ils interdisent l'accès à ta machine en local avec Corse, parce que tu tournes sur localhost et non pas sur un serveur. Donc voilà, c'est une petite protection supplémentaire, mais bon, si ta machine n'est pas exposée sur Internet, je pense que tu n'étais pas trop exposé à ce problème. Ensuite, il y a eu des améliorations au niveau de crack. Alors, c'est pas crack boom U, mais c'est crack comme Coordinated Restore at Checkpoint. Donc, c'est aussi ce que... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle chez AWS. Snap Start, non, c'est ça Lambda, donc qui est basé sur CRI-U, crack, etc., qui fait que, en fait, on peut donc initialiser une application. Une fois qu'elle est prête, en fait, ça me fait penser, tu sais, à la carbonite dans la guerre des étoiles, où t'as Han Solo qui est figé dans la carbonite.
Oui.
En fait, ça fait ça à ton application. Oui. Et tu peux redémarrer
en l'état.
Instantanément. Tu sors de ton état de carbonite spatial. Ça... Et ton appli, elle est déjà prête et chaude et toutes les structures de données sont prêtes. Donc, ça fait une sorte de restore d'un état que t'as snapshoté de ta JVM qui ouais. est déjà prête. Et donc, Micronautes, mais aussi d'autres, hein, Quarkus aussi, avaient déjà travaillé sur ce support crack. Et donc, je ne sais plus exactement ce qu'ils ont amélioré dans la release, là, mais voilà, c'est encore plus simple, où ça couvre plus de choses, je ne sais plus trop, du support de crack. Donc, des applications Micronautes démarrent instantanément. Et ce qui était intéressant, mais je ne crois pas qu'ils le mentionnent dans l'article, mais on en avait parlé dans épisode précédent, le fait que ce qui est fou quand même, c'est que ce système de restore, de checkpoint, etc., fait que ça démarre à peu près aussi rapidement que l'application quand tu l'as compilée en natif avec GraalVM et tout ça. Donc je trouve que c'est super impressionnant. Ouais, et puis plein d'autres petites améliorations mineures ou surtout des upgrades de
librairie dépendance, etc. Voilà. Bien avec. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'adore faire les casse-codeurs, je découvre toujours des choses mais qui sont assez... Bon. Swing n'est donc pas mort.
Et ben non, il y a encore des gens qui font des choses autour de Swing, donc ça existe toujours, hein, de toute façon.
Oui, ça existe.
Et même, je veux dire, quand on utilise notre bon vieux IntelliJ IDEA, tant que ça n'a pas encore migré, alors il s'appelle comment, c'est Fleet, non, c'est ça, je ne sais plus le
oui, le nouveau
IDE, là. Mm. Alors, je l'ai installé, mais je n'ai toujours pas testé, d'ailleurs, qui utilise Skia, je crois, pour l'interface graphisme, la UI, etc., puisqu'ils vont essayer de se passer de Swing, mais Swing est toujours là. Et donc là, il y a quelqu'un qui a fait un projet qui s'appelle Sierra, qui est une manière de faire du Swing avec des UI déclaratives. Donc ça me fait un peu penser en quelque sorte au Swing Builder de Groovy. Mais en tout cas, ça facilite la mise en page, on va dire, des composants, l'organisation des composants. Et puis typiquement, des composants graphiques sont rattachés à d'autres composants ou MBD dans, je sais pas, des scroll panes. Ouais. Qu'il y avait encore des grid back layout, des machins, des trucs comme ça. Et en fait, ce côté imbrication, on le retrouve au niveau du code avec la manière dont sont imbriqués les composants Swing. Donc, c'est marrant. Donc, si vous faites encore du Swing ou si vous avez besoin de faire quelques petites interfaces graphiques pour vos applications, ça peut être marrant de jeter un coup d'œil à ça. Passons à l'infrastructure. C'est plus pour toi, ça, Arnaud.
L'infrastructure, c'est pour Arnaud. Un article qui est assez intéressant de chez Red Hat, qui revient sur les concepts de route, mais de user finalement, mapping au sein des containers. Alors, je vais pas faire mon malin parce qu'effectivement, même moi, ça reste toujours un truc sur lequel je me perds et je me plante régulièrement, mais dans Docker. Alors, et donc justement, et l'avantage, c'est qu'aussi, ils couvrent les containers d'une manière générale. Donc, c'est pas uniquement Docker, mais ils vont comparer avec Postman, et etc. Et donc, ils expliquent en quoi et comment on contrôle la gestion des users, parce qu'il y a le user sur lequel on lance le container sur la machine hot, mais il y a aussi le user tel qu'il est dans le container. Par défaut, chez Docker, historiquement, ça a toujours été Docker, ça a toujours été root des deux côtés. Donc c'est root pour le démon qui fait tourner les images Docker, et c'est root dans le container. Comme on peut s'en douter, ça pose certains problèmes de sécurité, sachant qu'effectivement, on map en général le user interne avec le user externe et qu'ils partagent donc les accès, etc. Donc justement, ils montrent comment, en quoi Docker et Podman peuvent être différents. Donc justement, les différences, j'ai découvert dans cet article, je savais pas, je connais très peu moi personnellement Podman, je connais mieux Docker que Podman, et comme quoi justement il y a des différences pour justement limiter un peu la sécu, les problèmes de sécu, etc. Et donc voilà, c'est surtout un bon rappel pour comprendre les mécanismes de user interne externe au container, et à quoi faire attention pour tous les risques de sécurité. Et nous, par exemple, dans des environnements de CI, CD, etc., c'est là où on va faire très attention que tout ne tourne pas justement sur du root et tout ça, parce que sinon vous avez d'énormes risques d'injection de personnes qui vont faire des choses malicieuses sur votre infrastructure alors qu'ils tournent dans un container. Et comme nous le répète régulièrement notre cher Quentin Adam, les containers, c'est pas la panacée. En termes de sécurité, il y a mieux. Et effectivement, donc faut s'en méfier quand même. Et ça, cette partie gestion des users, c'est quand même quelque chose de critique dans la notion de container. Voilà, donc tout un article, il est pas très long, il fait une grosse page, mais pas très très long sur ce principe.
D'accord. Et côté cloud, on a la sortie de Kubernetes 1.26 avec notamment une corrélation de l'hébergement de la registry par Google. C'est quoi ?
C'était sur la dernière, c'est sur la 1.25 que ça avait été rajouté pour la première fois. Donc le problème, c'est que pour récupérer toutes les ressources de Kubernetes par défaut, ça prend de la charge, vu le nombre d'environnement Kube qu'il peut y avoir désormais dans le monde. Et ça commençait à devenir un peu compliqué de se dire, c'était, de toute façon, je pense que c'était Google, je crois, d'ailleurs, à l'époque, qui gérait ça historiquement. Et le CNCF, ils ont mis en place une plateforme commune qui, derrière, peut déléguer à Google, Amazon, etc. Donc, il y a un nouveau registry qui a été créé, qui s'appelle registry.k8s.io. C'est là où il y a toutes les images, désormais par défaut des releases de Kubernetes. Et là, donc, en 1.26, ils viennent de pointer par défaut sur ce nouveau registry qui lui donc délègue à Google, Amazon et puis peut-être demain vers d'autres providers si vous avez de la bande passante et vous voulez partager, n'hésitez pas à les contacter. Donc ça, c'est la première chose sur la partie registry. C'est en alpha, mais il y a un nouveau système sur la location des ressources. Alors là, j'ai pas bien creusé, mais bon. Aujourd'hui, dans Kubernetes, pour ceux qui en font, vous savez, les problématiques de limites, de require, de limites, donc on demande des ressources, mais on dit qu'on a des limites de ressources, etc. Bon, tout ça, ça a ses limitations en termes de d'usage et d'optimisation de l'usage du cluster. Donc, ils sont en train de mettre en place donc une nouvelle feature qui s'appelle le Dynamic Resource Allocation. Donc là, c'est en alpha, en version 1.26, mais vous pouvez donc commencer à regarder, qui vous permet de tuner plus finement justement l'allocation des ressources de manière à ce que ça se fasse dynamiquement et que vous ayez moins cette... c'est toujours le même problème quand on gère un cluster Kubernetes, de se dire « ouais, mais là... » l'application, ça va être vraiment quoi sa limite? Et puis, est-ce qu'il faut vraiment hardcoder la limite? Il faut pas l'hardcoder. On avait déjà discuté il y a quelques épisodes sur, mais est-ce qu'il faut faire une limite hard sur le CPU, sur la mémoire, sur les deux? En fait, c'est pas la même chose. En gros, sur la mémoire vaut mieux, sur le CPU, ça sert pas à grand chose. Et voilà. Donc là-dessus, c'est une nouvelle feature qui est annoncée. Le dernier, c'est sur tout ce qui est monitoring. avec la partie métrique qui sont exposées. Maintenant, il y a les SLI qui sont exposées pour tous les composants Kubernetes dans un format Prometheus. Donc, vous pouvez maintenant monitorer facilement depuis Prometheus tous les composants de base de Kubernetes via les nouvelles métriques. Voilà. Puis plein d'autres petites choses. Et puis surtout, bah, quelques API. Alors, je les ai plus sous... Est-ce qu'il est note? Est-ce que je me rappelle plus? Non, enfin oui, il donne juste le nombre, mais il y a un certain nombre de d'API qui sont donc passés en stable, etc., comme d'habitude. Donc voilà, ça avance dans les... Mais je les ai pas en tête. Voilà. Donc, 1.26 qui est sorti fin décembre.
Cool. On va passer un petit peu au web. Il y a Evan Yu, le créateur de Vue.js, qui a fait une rétrospective, lui aussi, sur l'année 2022. Donc, c'est marrant parce que c'est souvent de la version 2 à la version 3 que c'est toujours un peu les grands chamboulements, chambardements. Donc là, il y a la grande migration de Vue 2 vers Vue 3 qui est en cours et qui a plutôt pas mal progressé. Donc en fait, Vue 3 arrive avec une nouvelle manière de designer ses composants, etc., avec l'API composition plutôt que l'API classique et historique, l'API option. Donc c'est une nouvelle notation, une nouvelle manière de coder en Vue. Alors l'options API, elle est toujours disponible. Mais c'est l'API composition qui est recommandée. Et là aujourd'hui, donc ça fait déjà un petit moment, la documentation de Vue, par exemple, propose Vue 3 par défaut, et c'était déjà depuis février dernier en fait. Et aussi d'utiliser préférentiellement l'API composition, qui est plus pratique, j'imagine, pour composer les composants, etc. Même si bon, là je ne suis pas un expert en la matière, même si j'aime bien utiliser Vue.js. Et du coup, pour aider en fait à la transition de la communauté, l'écosystème, etc., il faut un certain temps pour que toutes les librairies les plus utilisées migrent ou proposent une nouvelle version qui soit compatible avec cette nouvelle version de Vue. Du coup, l'équipe de Vue s'est focalisée un petit peu plus sur tout ce qui est outillage et expérience développeur. Ce qui a donc amélioré effectivement la facilité de développer, débugger des applications Vue, etc. Et pendant ce temps-là, l'écosystème a plutôt bien adopté Vue 3 et continue de le faire au fur et à mesure. Et il termine l'article aussi en parlant de ce qu'ils vont faire en 2023 et en particulier d'essayer de faire des releases plus régulières, mais des releases mineures. Pour apporter les changements au fur et à mesure. Donc entre Vue 2 et Vue 3, c'est un gros truc tout nouveau. Autant là, dans les prochaines versions, ce sera des petites choses. Et ils vont continuer, parce qu'ils ont déjà commencé à travailler là-dessus, sur un nouveau mode de compilation, le Vapor mode, qui propose une stratégie de compilation qui est plus rapide. Mais alors je sais plus, j'ai pas rouvert l'article sous les yeux, mais je me souviens que ça couvre pas forcément tous les modes d'utilisation qu'on peut avoir de Vue.js pour la. Attends, c'était quoi déjà? Donc ça marche bien. Ou je vous laisserai lire l'article pour mieux comprendre dans quel cas ça s'applique ou ça ne s'applique pas. En tout cas, ils vont continuer à travailler sur ce Vapor mode pour améliorer la compilation.
Cool. En tout cas, je suis content de voir que Vue.tify a enfin été migré et compatible vers Vue 3, parce que je sais que dans mes développements passés, Pierre, si tu nous écoutes, coucou, mais effectivement, on était bloqué, on pouvait pas passer à Vue 3 parce que Vue.tify, qui est une librairie d'abstraction pour gérer la composition, etc., était pas encore
prêt. Ah, d'accord. Et il y a aussi, là, il mentionnait pas, je sais plus s'il le mentionnait, mais je l'ai pas mis dans les notes, vite. Vite, non, oui. Vite, ça se dit vite comme nous. Oui, vite. Il y a l'air d'y avoir aussi pas mal de projets et pas que Vue.js qui utilisent vite pour le build, le bundling, enfin, même si ça utilise d'autres trucs pour le bundling,
c'est ça.
Un ensemble qui permet de développer rapidement avec vite.
Ça, l'outillage Build.js, y en a un nouveau tous les jours, mais effectivement, il y a une telle amélioration possible que. ça se comprend.
Puis là, même là, hier, je commençais un petit projet où je voulais faire du Micronautes et du Vite. Et du Vue. Du coup, j'étais là. Alors, attends, comment je fais? Parce qu'il y a le serveur pour Vue.js, le serveur pour Micronautes, comment ils se parlent? Alors, quand je suis en mode développement, si je veux bosser, tu vois, plus sur le code Micronautes ou plus le code front-end, je fais? Et après, oui, mais en plus, de toute façon, pour quand je le déploie, là, je veux vraiment qu'il me fasse tout le bundling, machin.
C'est vite compliqué hein, d'avoir du haut trio en tant que développeur. Tu veux du haut trio sur les deux parties. Tu veux du code et ça change, etc. Ouais. Et effectivement, après, à la fin, par contre, il faut que tu ouvres une appli qui, elle, est statique, qui a été optimisée, d'ailleurs, pour Sonio, etc. Mais toujours trouver ce chemin, c'est compliqué.
Exactement. Il n'y a pas tant d'articles que ça, ou de vidéos, etc. J'ai trouvé des choses et je crois que je vais arriver à mes fins. Ouais. Mais hier, j'ai passé plus de temps à chercher la bonne solution.
Je sais que j'ai lutté pareil, sur un contexte Spring Boot et
Vue. Il y a un bon article, justement, avec Spring Boot et Vue et Vue, je crois, que j'ai trouvé et qui m'a permis de trouver les bonnes astuces. Mais ça s'applique pour d'autres frameworks.
Oui, après, c'est des formules qu'on applique une fois qu'on a compris comment que ça s'embrique, comment qu'on peut gérer les deux serveurs et tout. On se débrouille.
C'est ça.
On passe à la data. Alors, Postgre, tout le monde aime Postgre. Et donc, il y a Stéphane Schmidt qui a fait un article sur, et si on utilisait Postgre pour tout?
Partout. Alors, pour faire quoi? Pour faire du caching en remplacement de Redis, pour faire des queues de messages, pour stocker des documents JSON aussi, comme à la place de MongoDB ou autre, pour faire des requêtes géospatiales. Alors c'est vrai qu'il y a les extensions PostGIS, de PostgreSQL. Pour faire aussi, on peut faire du full text search aussi, donc potentiellement pour remplacer Elasticsearch, enfin une partie de ce que Elasticsearch peut faire. Même pour générer directement du JSON en base, on peut le faire aussi. Donc, tu fais une requête dans ta base et c'est elle qui te retourne directement le JSON et non plus juste les données, mais la vue déjà formatée en JSON. Ou aussi, pourquoi pas, comme stockage ou adaptateur pour d'autres approches d'accès aux données comme GraphQL ou par exemple, comme stockage pour TimeScaleDB qui est une base de données type Time Series qui peut utiliser PostgreSQL comme backend. Donc c'est vrai que après on va dire, c'est comme on dit, quand on a un marteau.
On a un clou et donc tout est tout.
Ouais, l'inverse, je sais plus. Voilà. Donc le marteau doré qui sert à tout. On peut éventuellement utiliser Postgres pour tout. Donc pourquoi pas avoir, si on maîtrise bien cet outil.
Peut-être pas le répéter à mes collègues de Doctolib parce qu'on a déjà la plus grosse base Aurora Postgres d'Europe chez Amazon, donc on va éviter de
on l'utilise déjà
effectivement pour beaucoup de choses, donc voilà.
Mais voilà, c'est vrai que des fois, en tout cas, au lieu de en tout cas, si on utilise déjà Postgres, peut-être qu'éventuellement, pour éviter de complexifier encore plus son architecture, les problèmes de reprise sur incident, etc., peut-être que si on a besoin d'une simple queue de message quelque part, pourquoi pas utiliser Postgres. Voilà. Donc, c'est à la fois un article qui est correct sur le fait qu'effectivement on peut utiliser Postgres dans plein de scénarios possibles. Après, on n'est pas obligé de l'utiliser pour tout ça, mais quand on réfléchit à rajouter une de ces problématiques-là dans son architecture, peut-être que si on utilise déjà Postgres, peut-être que ça fait sens. Voilà.
Et ça ne sous-entend pas de toute façon de monter une seule et unique base Postgres. On peut utiliser l'outil Postgres effectivement avec différentes bases pour ces différents usages et donc gérer la scalabilité de la base à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on utilise la même techno qu'on est obligé de se créer un énorme monstre, une base unique. Voilà, c'est des choix d'architecture derrière qu'on peut faire qui sont après effectivement intéressants parce que tu réutilises les connaissances, toute l'exploitation, etc. Mais chaque chose pour tout chaque outil fait. Pour son usage, mais des fois effectivement, faut aussi savoir faire simple et utiliser ce qu'on a.
Exactement.
On passe à l'outillage.
Le chat qui a pété. Pourquoi le chat a-t-il des gaz? Donc, ChatGPT. On en entend beaucoup parler.
Beaucoup. Y
a pas mal de gens qui l'utilisent, qui essaient de lui faire faire plein de choses. T'as joué avec toi, Arnaud?
Ouais, j'ai joué avec. Ouais, je trouve ça, c'est séduisant, hein, franchement.
C'est assez fascinant, quand même.
C'est fascinant, franchement. Enfin, quand on voit ce qu'on arrive à lui faire dire, après, c'est marrant comment on arrive à le tromper ou à lui faire faire dire des trucs qui sont
bien. C'est un jeu, ça aussi.
Mais pour le coup, il a quand même vraiment la base de ressources qu'il a permet vraiment d'avoir des cas, je dirais, assez généralistes. Franchement, enfin, c'est vrai que j'ai vu les articles, on les a pas mentionnés, mais de Bing qui va intégrer l'équivalent d'un chat GPG. Je sais que chez Google, c'est pareil. On a vu des articles comme quoi il y avait la lanterne rouge qui disait ouh là 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 là, faut qu'on fasse des choses sur le search parce que sinon on va se faire dépasser si on reste un search engine classique. C'est vrai que c'est beau, enfin, de répondre, mais après il y a plein de biais, il y a plein de risques aussi, donc voilà. Donc, mais en tout cas, moi, j'ai été bluffé.
Ouais, c'est vrai que Google est assez, peut-être trop prudent là-dessus, parce que on a peur justement de ce qui peut arriver, tu sais, le chatbot qui devient nazi, des trucs comme ça qu'on a déjà vu, hein. Donc avec les bots de Microsoft, Facebook. Donc,
il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes.
Google est un peu trop prudent, hein, et pour autant travaille sur le sujet et en interne. Alors je sais même pas si je devrais le dire, je sais plus, mais enfin on a des trucs équivalents qui sont mais super impressionnants. Et là, par exemple, donc j'ai testé ChatGPT pour je voulais écrire un article, peu importe le sujet, pour le blog de Google, et je m'étais dit bah tiens, qu'est-ce qu'il me dirait, tiens, je dois écrire un article sur tel sujet qui doit couvrir ça, et qu'est-ce que tu me proposes. Et effectivement, il a réussi, c'est quand même impressionnant. C'était bon, je savais déjà sur quoi je veux pas qu'il m'écrive l'article, mais pour voir s'il y a des choses que j'aurais oubliées. Et il m'a proposé plusieurs points. Alors d'abord, il faut quand même parler de ça, dire l'introduction à ce truc-là, et parler de les avantages. Et il te fait une liste avec des bullet points, quoi, avec des points, disant alors il y a ça comme avantage, la flexibilité, la sécurité, le machin. Et je sais plus, j'en avais oublié un, je sais plus ce que c'était, sur la sécurité, peut-être bien, enfin, je sais plus trop ce que c'était. Et j'étais là, je me disais, ah ouais, c'est une belle pensée structurée, t'as l'impression qu'il pense le truc pour arriver à sortir ça sur un thème qui est pointu. Je me dis, sur son ensemble, sur ses milliards d'articles sur lesquels il a pu être entraîné, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup qui couvrent le sujet pointu que je lui ai demandé. Donc, ça reste quand même impressionnant. Et bref, donc c'est un modèle de langage naturel, conversationnel. Donc, on peut discuter avec lui. Et donc, notre premier article, c'est justement quelqu'un qui a écrit un blog post sur... je vais créer un nouveau langage de programmation et j'aimerais que tu m'aides pour créer mon langage de programmation. Et le gars, en fait, du coup, il dit d'abord, j'aurais besoin de tel type de données de base, des nombres, des chaînes de caractères. Ah ouais, ok, c'est pas mal. Bon, par contre, genre les clés dans les objets, je voudrais pas que ce soit avec des quotes, etc. Je veux que ce soit des clés nues, quoi, comme des mots clés. Et pof, il fait le changement, nickel. Bon, ok. Après, il dit ouais, mais pour déclarer des variables, je voudrais deux types, des trucs finaux ou pas finaux, tu vois, mutables ou pas mutables. Après, il réfléchit sur la syntaxe pour les fonctions. Alors, je veux pas des fonctions, je veux juste genre des lambda, tu vois. Ok, il te rajoute des lambda. Ah ouais, mais la syntaxe, il y aurait pas une autre syntaxe. Et pof, il te propose une autre syntaxe. Après, attends, qu'est-ce qu'il continue à faire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, sur la notion de bloc, comment il pourrait créer la structure de bloc, donc plutôt que des classiques accolades, genre il veut utiliser des parenthèses. Il a bien compris la notion du coup de bloc, donc il écrit Fibonacci, mais il l'écrit avec la notion de bloc, et puis après il dit ouais, mais comme c'est juste des expressions, enlève-moi les blocs qui sont redondants, et pof, il enlève, il garde bien la structure du code. Enfin, bref. Après, il voit à certains moments, ça marche, mais pas toujours. Donc, à un moment, il veut faire une sorte de map. Enfin, map, tu as une collection, tu la map en autre chose. Et l'ordre des choses n'est pas forcément très logique. Après, il dit, ouais, non, c'est pas comme ça. Mais bref, il a une vraie conversation et il arrive à faire aller ChatGPT dans la direction qu'il veut et où il propose même, je sais plus ce qu'il avait proposé, si c'était la notation pour les blocs ou quoi, il avait même proposé un truc que lui avait pas pensé possible, enfin pas possible, mais une type type de syntaxe qu'il n'avait pas pensé éventuellement pour son langage. Quoi.
Ouais. Non, c'est vraiment impressionnant. Enfin, honnêtement, là, l'article est très bien fait parce qu'il montre la démarche, etc. Et donc là, juste pour rigoler, je viens de lui demander parce que je l'avais ouvert. Comment je pourrais le présenter aux auditeurs d'un podcast technique? Et donc, je vous lis sa réponse. Vous pourriez dire aux auditeurs que je suis un modèle de langage de pointe entraîné par OpenAI, capable de comprendre et de générer du texte en français. Parce qu'effectivement, je vais parler en français. Vous pourriez également mentionner que je peux répondre à des questions sur divers sujets techniques et fournir des informations et des conseils utiles. Et que je suis un outil puissant pour les développeurs, les écrivains et les chercheurs qui cherchent à automatiser des tâches liées à la compréhension et à la génération de texte. Voilà.
Il se la pète un peu, non?
Il se la pète un peu.
D'ailleurs, c'est à Lyon, là, c'était dans les news, dans les infos ces jours-ci. Je sais plus, peu importe l'université, le domaine, etc. Mais bref, il y a un enseignant qui avait donné un sujet à ses élèves et t'en avais genre quasiment la moitié qui ont en fait généré leur devoir avec ChatGPT.
Et
donc il trouvait ça un peu bizarre que c'est bizarre quand même un peu la structure
ressemble,
l'ordre, les idées sont quand même un peu trop similaires. Donc est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont bossé ensemble, c'est là qu'il s'est rendu compte non, on dirait qu'ils ont généré ça, mais c'est un problème aujourd'hui de savoir si quelque chose a été généré ou pas.
C'est ça.
Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel OpenAI travaille.
Voilà.
Et j'avais même trouvé, j'avais même vu un article ou un tweet passé de quelqu'un qui avait utilisé GPT-2 pour distinguer des trucs générés avec GPT-3.
ChatGPT-3. C'est ça.
Donc, certainement que dans les versions à venir de ChatGPT, il va y avoir, si vous connaissez la stéganographie, l'art de cacher de l'information dans des données, dans du texte, dans des images, etc. Ils vont certainement arriver à rajouter quelques petites informations dedans qui vont rajouter une sorte de, comment on dit en français, une watermark, tu sais, une trace, une empreinte cachée indiquant que quelque chose a été généré. Parce que sinon, un jour, le web, ça va être que les trois quarts du contenu, ça va être du ChatGPT partout.
Et c'est
moi, j'aime bien, si tu veux, pour guider la réflexion, pour voir si tu n'as pas oublié des choses, pour avoir les points de vue un peu généraux sur certains sujets, etc. Je trouve que ça peut t'aider à te guider et à ne pas oublier des choses. Après, lui faire générer un truc complet, il y en a qui ont généré des bouquins pour enfants, des trucs comme ça.
Ah oui.
C'est marrant, mais bon.
Non, il faut le garder comme une aide, et effectivement pour aider les gens, il y a quand même beaucoup de choses. Après, ça va dans la même lignée que les GitHub Copilot pour les développeurs, etc. Ce sont ces sources d'informations qui permettent de proposer des idées. Et comme tu dis, moi j'aime beaucoup pour effectivement te dire tiens, t'as bien pensé à tout ça. Bon là, il se pose la vraie question parce que j'avais vu les chiffres, on les a pas notés, mais les liens, mais OpenAI donc est en train de travailler sur un business plan et sur comment rendre. Ils ont interviewé la communauté là c'est gentil, on vous a laissé jouer avec, mais ça coûte une blinde, c'est une catastrophe, les ressources qui sont derrière, et donc de toute façon ça sera jamais gratuit tel que ça l'est aujourd'hui, profitez-en maintenant si vous voulez jouer avec, mais il va falloir que la solution passe en payante pour qu'ils aient un modèle derrière qui tienne, parce que l'infrastructure qui est derrière, d'ailleurs en ce moment on le voit ces derniers temps, il y a de plus en plus pour ceux qui l'utilisent, on est surchargé, c'est vache, et tu peux plus te loguer, etc. par moment. Faut aussi qu'ils trouvent un équilibre, tout ça. Donc, mais en tout cas, des belles promesses, et donc la version 4, je crois, est pour plus tard cette année. Et effectivement, sur les données, parce que là, je crois que le 3 s'arrête sur je sais plus quelle année. Alors, je me rappelle plus, les données, elles ont été computées jusqu'à
j'ai mis, ça au moins un an, je crois. 21, si tu lui demandes la date, il va te dire une date. Fin 2021,
des trucs très récents, de toute façon, il saura pas t'aiguiller, il te dira, je peux pas, c'est de la news, machin. Et le prochain, justement, aura, je crois d'ailleurs, une partie qui peut être plus live et tout ça. Enfin, des trucs de fou. Enfin, ça évolue très, très vite. Bref, passons à autre chose. Alors, passons à GitHub. Je parlais de GitHub Copilot. Passons à GitHub. Cette fois-ci, on va parler de GitHub et de sécurité. Donc, ils ont rajouté dans les repos publics la possibilité de scanner les secrets. Donc les secrets de tout type, ils ont des scanners hein, qu'ils utilisent et qu'on a donc accès quand vous utilisez GitHub avec les comptes entreprises, etc., pour pouvoir checker et trouver, genre vous mettez vos clés AWS, etc. dedans. Il y en a eu beaucoup beaucoup de mauvaises surprises avec ça. Hein, de oh tiens, pourquoi ça a fait de la crypto-monnaie sur mon environnement? Ah bah oui, mais la clé elle était publique. Et donc voilà. Donc ils ont désormais rendu ça disponible. C'est plus seulement non pas que pour les organisations, mais aussi pour les repos publics de ceux qui font de l'open source, etc. Ouais, ouais. Et donc, ça évitera les problèmes de sécu qui sont encore plus certainement impactants quand on est un projet open source ou un individu et qu'on laisse traîner une clé de sécurité quelque part. C'est encore plus difficile à gérer que quand on est une grosse entreprise où effectivement on a des process. Bon, voilà, donc GitHub a rajouté ça. C'était en décembre. Merci un peu. Java,
les nouveautés, Visual Studio. Ouais. De Java sur Visual Studio Code. Donc, c'est un article sur le site Fujay qui donne plein d'articles sur Java si ça vous intéresse. Abonnez-vous à cette au flux RSS si vous êtes encore, comme moi, abonné à plein de flux RSS. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le support Java de Visual Studio Code? Donc, l'amélioration visuelle pour les extensions Spring Boot et aussi pour la visualisation de la mémoire qui est utilisée. Ils améliorent aussi la complétion de code, comme la complétion postfix, un peu comme dans IntelliJ. Donc c'est vrai que pour ceux qui, enfin moi j'utilise IntelliJ depuis 2003, ça va faire quasiment 20 ans quoi. C'est vrai que IntelliJ reste quand même très très fort sur la navigabilité du code et la complétion de code. Et j'ai toujours trouvé que Visual Studio Code n'était pas encore à la hauteur. Donc là, ils font des belles améliorations de ce côté-là. Pareil pour vous savez, tous les petits raccourcis qui permettent de générer du code, une nouvelle méthode, nouvelle classe, nouvelle ci, nouvelle cela. Il y a plus de raccourcis. Il y a le support de Lombok intégré, donc qui permet de générer avec les annotation processors du code, des getters, des choses comme ça. Il y a, en parlant de ça, du support de l'annotation processing de Gradle, meilleure visualisation des erreurs de build, donc vous avez un meilleur retour et donc vous pouvez plus facilement retrouver où est la source d'une erreur. Et apparemment, donc là, il y a maintenant 2 millions de développeurs Java qui utilisent Visual Studio Code pour Java. Donc parmi les... je sais plus combien on dit d'habitude qu'il y a de développeurs Java, c'est 12 millions ou ça peut-être encore augmenté.
Je crois que c'est comme ça, ouais, j'aurais dit plus de 10, mais effectivement, je ne me rappelle plus le chiffre.
Je crois que ça doit être 12 maintenant, à peu près. Ouais. Donc ça veut dire, genre, un développeur Java sur 6 utilise Visual Studio Code. Sachant que dans les dernières études et tout ça que j'avais vu, enfin IntelliJ était à genre 60% d'utilisation.
C'est dingue.
Mais c'est là, vrai. Si ça veut dire 2 sur 12, enfin voilà, on va dire ça, c'est un 15% ou un truc comme ça, une quinzaine de pourcents qui utilisent Visual Studio Code. Donc c'est plutôt pas mal et c'est une belle, belle, belle progression, quoi.
C'est plutôt cool. Et donc, en parlant de superbes IDE, parlons de VI.
Pas Visual Studio Code, mais VI. Emmanuel et moi, on aime bien proposer des articles sur VI. Donc, il y a effectivement un nouveau guide plutôt avancé pour les utilisateurs de VI. Et le truc qui était marrant, donc je l'ai partagé sur Mastodon, je l'ai partagé sur Twitter. Et donc, quand je l'ai partagé, il disait c'est marrant, c'est un guide avancé, mais il mentionne même pas comment quitter VI, le truc classique. Et ils me disent mais oui, mais justement c'est pour les utilisateurs avancés, donc c'est ceux qui savent déjà quitter VI. Donc voilà, il y a ils couvrent différentes commandes, etc. De VI, le mode global avec les G, les ranges, il parle des quick fix, des registers aussi, dans lesquels on peut stocker les choses, le recording, donc c'est des choses un petit peu plus avancées, et je dois avouer que, alors même si je sais que c'est des choses qui existent, c'est pas des choses que j'utilise moi dans mon utilisation de VI. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, j'apprends toujours des nouveaux trucs sur VI, mais je les oublie et je reste avec trucs de base, en fait.
Base, ouais.
Et j'aime bien et j'aime toujours VI, mais c'est marrant, j'ai du mal à intégrer dans le long terme les trucs plus avancés de VI. Ouais. Et j'ai juste enfin voilà, le corps, les corps mouvements, les modes, etc. Il y a pas de souci, je maîtrise. Mais les trucs plus avancés, ben j'oublie toujours.
Ouais, moi, je reste au mode. J'arrive déjà à sortir, c'est déjà pas mal. Et effectivement, oh. Non, j'arrive un peu plus, mais effectivement, je suis comme, enfin, moins que toi, effectivement, mais je navigue dans VI, mais sans plus. J'arrive pas non plus. Après, faudrait le faire tout le temps. Et j'ouvre plus d'ailleurs un Visual Studio Code quand je veux écrire. Enfin, ça dépend de ce que je fais, mais quand c'est en local, etc., je vais plutôt ouvrir. Si je suis pas déjà dans un IDE, je vais plutôt ouvrir un Visual Studio Code pour faire ce que j'ai à faire. Et VI, ouais, c'est du local très ponctuel, effectivement. Bon.
Tiens, j'ai décidé d'aller. Du remote, souvent,
ou du remote, ou surtout, oui, du remote sur un serveur. Et là, pour le coup, c'est ça.
Mais en général, c'est vrai que c'est plus pour des petites modifications.
Oui, oui.
Développer.
Enfin, personnellement, non, en tout cas. Je sais, il y en a qui le font, hein, mais oui, moi, j'irai jamais l'utiliser en tant qu'IDE. Ça, c'est en dehors de mes compétences. Et pour continuer.
Sur les IDE.
Oui, c'est ça, sur les IDE. Le client HTTP, alors IntelliJ, pas que IntelliJ, parce que je crois qu'il est disponible dans tous les produits JetBrains, mais pour ceux qui utilisent les produits JetBrains, il y a dedans un petit outil qui est un client HTTP qui permet en fait de décrire ses tests, enfin ses requêtes HTTP dans un fichier avec une syntaxe un petit peu simplifiée, une sorte de...
Je sais pas comment expliquer.
Ouais, c'est un peu Markdown, un peu Docker, enfin un truc où on donne l'URL, on donne les commandes, enfin voilà, les paramètres, etc. Mais pour l'instant, c'est utilisable que dans l'IDE, au sein de l'IDE, puis on exécutait ça, donc c'était sympa pour développer, tester des choses. Et donc là, ils en ont fait un outil CLI qu'on peut utiliser, bien sûr, en local pour donc automatiser ces tests. Et donc on peut très bien écrire une série de tests en disant, je veux tester que l'URL machin, elle retourne temps, etc., etc. Je peux faire mon petit scénario de test un peu end-to-end, mais vraiment au niveau HTTP avec ce type de CLI et de descripteur. Et on peut aussi l'utiliser dans la CI si vous voulez automatiser des choses à CI. Et donc ils ont même fait un exporteur en format JUnit, ce qui fait que vous pouvez très bien récupérer vos résultats d'exécution de test. Et donc vous pouvez finalement l'utiliser pour tout n'importe quoi. Vous voulez monitorer une infra que 4 services sont up, vous faites votre petit script IntelliJ de telle URL et hop, et puis à la fin ça vous fait un petit rapport JUnit, vous dire c'est vert, voilà. C'est une petite chose qui est bien sympathique, et voilà. Donc une nouvelle ligne de commande pour manipuler vos requêtes HTTP. Pratique. On passe à l'architecture. C'est ça, Joe.
Avec l'évolution du rôle de l'architecte.
Ouais. Intéressant article.
Peut-être qu'en préambule, on peut quand même mentionner le fait que tous les deux, on a été dans une société, pour ne pas la nommer Octo Technologies, avec un bureau d'architecte. Nous, notre rôle, on a fait différents types de missions, mais on a été souvent architecte dans des bureaux d'architectes, dans des gros projets.
C'est ça.
Et donc, c'est marrant parce que cet article nous a rappelé à nos bons vieux souvenirs d'architectes à l'époque quand on était chez Octo. Donc oui, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent l'évolution dans le sens où l'architecte n'est plus, ou même déjà nous à notre époque, il y a 10-15 ans, c'était déjà plus trop le cas. Enfin, en tout cas, de la manière dont nous on le concevait.
On était peut-être un peu en avance, mais j'avoue qu'à l'époque, on voyait encore beaucoup de verticales.
Ouais, c'est-à-dire l'architecte qui dit vous allez faire comme si, moi je vais contrôler comment vous travaillez, etc. Alors que aujourd'hui et nous comme on le faisait déjà chez Octo, c'était quand même plus une approche de support finalement aux équipes de développement, de coaching, de mentoring, etc. Comment je me souviens, il y avait un truc qui m'amusait des fois, c'était un développeur qui vient vers moi, j'ai tel problème, comment je peux le résoudre. Et donc on était un peu dans une posture de conseil et d'aide, de support. L'anecdote que j'avais en tête, c'était marrant, c'était, je me suis dit, je suis meilleur que toi pour chercher la réponse sur Google. Et je me souviens, c'était un problème avec Hibernate et tout ça, où le petit junior, il vient vers moi, oui, comment on fait? T'aurais cherché en 2 minutes sur Google, t'aurais trouvé la réponse. C'était une erreur typique que t'as avec Hibernate à l'époque. Ouais. Enfin, les stale key, les machins, tout comme ça. Et c'est vrai qu'on, donc il y a ça. Le fait aussi que, donc qu'est-ce qu'il mentionnait d'autre? Que l'architecture, c'est pas que le problème des architectes, mais c'est le problème de tout le monde, donc des développeurs y compris, quoi. Hein. C'est pas que l'architecte qui impose l'architecture de ce qu'on est en train de développer.
C'est une logique DevOps, en fait, ce qu'ils expliquent. Au final, c'est un peu dans cette même logique hein, qu'on a fait avec les mouvements DevOps, etc., mais se dire l'architecte, au lieu d'être en position centrale et d'être effectivement monsieur, madame, bullet point sur des slides qui définit, parce que ça, c'est ce qu'on a connu il y a très, très longtemps, hein, tous les deux. Non, c'est plus ça. C'est effectivement des gens qui vont au quotidien travailler avec les gens, qui vont effectivement, comme tu disais, former et aider à réaliser. Donc, c'est vraiment ce changement de vocation du je suis l'expert et je te donne, tu vas par là et tu fais ça, à non, je suis au quotidien avec toi, comme font les SRI auprès des devs dans une démarche DevOps. C'est exactement la même logique. Et ce qu'ils disent aussi, surtout, c'est que vu que l'outillage qu'on a à disposition, les architectures qu'on a à nos dispositions aujourd'hui avec le cloud, avec tout ça, les problématiques ont changé. Aujourd'hui, faire quelque chose qui est scalable, alors, je dis pas que c'est simple, mais il y a des outils pour faire des choses qui vont facilement gérer la charge, gérer plein de choses, choses qui, effectivement, quand nous, on était architectes il y a un certain nombre d'années, c'était moins évident, ne serait-ce parce qu'il n'y avait pas le cloud, ou très peu à l'époque, avec Guillaume, et donc on n'avait pas ces ressources, ces services à notre disposition pour monter une architecture. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, ces problématiques d'architecture, mais on parle d'architecture, mais aussi de sécurité, toutes ces choses-là, sont plus à la disposition des devs parce qu'ils ont des bibliothèques disponibles, enfin des devs, des projets, parce qu'ils ont déjà plein de choses de disponibles qu'on n'avait pas il y a 10, 15 ans, enfin, ouais, voire 20, et qui donc aujourd'hui permettent que les architectes voilà soient dans ce rôle de support, dans ce rôle d'amélioration continue, etc.
C'est clair. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est marrant. On mettait en place des usines logicielles, etc. Oui. Alors que comme tu dis, maintenant il y a des outils. C'est presque plus de la configuration des fois.
C'est ça.
Donc ça redevient aussi dans les mains des développeurs. Donc le côté DevOps. C'est bien de voir comment ça évolue et que aussi ça me rassure que ce qu'on faisait à l'époque c'était pas plus mal et de voir que ce rôle d'architecte c'était pas simplement non plus de l'expertise technique mais que au final tous les aspects mentoring, coaching, support, etc. il fallait quand même aussi avoir une certaine fibre j'allais dire humaine, je sais pas si c'est le bon terme, mais de savoir être en équipe, de vouloir aider les gens, etc. Et non pas juste d'être. Parce que même nous aussi, on en a fait aussi des missions où on était l'architecte qui donnait l'architecture que vous devez mettre en place. Enfin, c'était du conseil, donc on vous conseille de mettre en place cette architecture-là. Mais on était aussi parfois sur des missions où on était justement dans cette position d'aide, de support, de coaching, etc. Quoi. Donc pas mal, c'était sympa de relire ça sur l'évolution de notre bon vieux métier que nous avions.
C'est ça.
Nous avions moins de cheveux blancs ou plus de cheveux.
C'est ça. Ou plus de cheveux, ouais, c'est ça. Pour mon cas. Sur l'architecture, donc un très long rapport sur les tendances de 2023, donc par notre cher ami Didier Girard, qu'il est venu chez nous en interview plusieurs fois de mémoire, encore récemment il y a quelques mois, et de Olivier Raffal, son compère. Vas-y.
Le rapport des tendances, donc on réfléchit à ce qui va se passer en 2023. Donc ça propose deux axes, en particulier deux prismes, comme ils les appellent. Donc un prisme technologique, organisationnel, culturel, pour préparer l'entreprise aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, mais aussi un prisme plus orienté sur les produits, les plateformes, la gestion des données pour structurer plus notre approche des systèmes d'information modernes d'aujourd'hui. Donc ça couvre vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Ça passe de l'intelligence artificielle, donc avec l'avènement des solutions comme ChatGPT, DALL-E et compagnie, la gestion des données, le cloud qui est toujours super présent. Il parle aussi du web, même le web 3, et en contrastant avec le web 1 et le web 2, en disant aussi que bon, bah, c'est pas non plus pour aujourd'hui que les promesses du web 3 vont être délivrées. Et donc vu que ça parle quand même aussi des hommes et des femmes de l'informatique, donc aussi le problématique d'organisation des équipes, des rôles, etc. Donc c'est un très très long rapport qui fait je crois qu'il y a une cinquantaine de pages et qui couvre tous ces sujets-là. Donc ça parle, oui, on a parlé aussi de WebAssembly aujourd'hui, donc il parlait de WebAssembly, il parlait des langages, de Rust, de tout plein de sujets très intéressants. Une très très, enfin une couverture très exhaustive en tout cas, des tendances, des technos, des approches, etc. Okay. Super article. Okay.
Quelque chose à lire si vous voulez, voilà. Ouvrir votre esprit, avoir une meilleure vision de tout ce qui se passe, et voilà, c'est super intéressant. On passe à loi, société et organisation. Alors le premier sujet qui a pas mal fait couler d'encre ces derniers mois, semaines, notamment pendant la Coupe du Monde, etc. C'est Twitter, donc avec notre cher Elon Musk qui a racheté Twitter, je sais plus quand c'était, finalement en septembre, octobre, quelque chose comme
pas
ça.
Très loin, ouais.
Et qui donc on a déjà parlé dans les épisodes précédents, il a viré tout le monde. La plupart des... et puis il a décidé de on va tout faire différemment, on va tout changer et puis ça va être bien, et puis ça sera la liberté d'expression, n'importe qui peut parler, tout est beau. Et donc pendant la période de la Coupe du Monde, et donc juste je crois pendant la finale ou la demi-finale, je me rappelle plus, de la Coupe du Monde, il y a eu un changement de politique sur tout ce qui concernait finalement les acteurs externes, on va dire les concurrents, et notamment Mastodon. Parce que sur Mastodon, il y a eu une énorme migration. Alors après, il y a des articles qui reviennent dessus sur, bon, effectivement, c'est comme d'habitude, il y en a beaucoup qui ont essayé, qui ont migré. Bon, après, ceux qui restent, effectivement, mais il y a quand même eu un énorme gain d'utilisateurs sur Mastodon. Et donc, ça l'a un petit peu fâché, notre cher ami Elon, qui a donc sorti discrètement pendant que se jouait la finale ou la demi-finale, je sais plus, des nouvelles termes et conditions, disant que ça devenait interdit de mettre des liens vers des concurrents, services concurrents, dont Mastodon, que c'était interdit de mettre dans sa bio, dans son profil, son identité, son fameux email, enfin @ de Mastodon, etc. Bon, on est suivi obligatoirement, comme vous pouvez l'imaginer, une ruée dans les brancards de toute la communauté. Tu te fous de nous, on peut parler de tout, soi-disant, mais finalement, pas de tes concurrents. Tout le monde a ronchonné. Finalement, ils sont revenus très très rapidement en arrière. Je crois qu'en 24 heures, rollback de la règle pour changer les. Et je crois que je sais même pas si ils ont gardé finalement la moindre modification sur les conditions d'utilisation. Mais voilà, donc des articles qui reviennent là-dessus sur cet événement qui était pas très rigolo au final, mais qui montre à quel point une personne comme Elon, avec un joujou dans les mains comme Twitter, peut décider des choses qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont pas de sens, à bien des égards. Et de toute la dangerosité, bien sûr, de ces grosses sociétés dans les mains de ces personnes. Mais voilà. Après, au final, tout s'est arrangé, il est revenu en arrière, il a réfléchi quand même deux fois et il s'est dit non.
Mais enfin, faudrait réfléchir deux fois avant de faire quelque chose et non pas lancer un truc et puis on backtrack, quoi. Et bon, malheureusement, c'est un peu son approche, quoi.
C'est ça, et c'est comme les sondages où il a fait 50 millions de sondages sur son compte Twitter pour est-ce que je réinstaure le compte de je sais pas quel nazi ou je sais pas quel.
Oui, il a réinstauré
plein de comptes qui avaient été bannis. Après, il y a des choses qui sont très intéressantes, on les a pas listées là-dedans, mais sur les ce qu'ils appellent les Twitter Files. Donc il y a Elon qui travaille avec un journaliste américain sur qui reprend finalement tout l'historique de Twitter en interne, de qu'est-ce qui s'est passé, puis notamment tous ces sujets de savoir les choix de Twitter en termes de modération, qu'est-ce qui se cachait derrière, les process, les règles, etc. Et effectivement, on en découvre beaucoup, beaucoup de choses sur le fait que bon, bah voilà, le modèle était peut-être pas parfait. Après, est-ce que le nouveau est mieux ou pas? Ça, je saurais pas dire. Mais effectivement, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers qui sortent, notamment, bah, sur les périodes d'élections américaines et pas que, hein, sur, bah, la gestion de la Russie, etc., etc. Mais on voit bien à quel point, un réseau social comme Twitter, en fonction de comment il est modéré, comment il est géré, peut, influer, potentiellement avoir des impacts, bah, sur la société et la vie d'une manière générale. Voilà. Donc, là, on a juste mis les articles sur toute cette partie Mastodon et tout, mais regardez, il y a vraiment des choses intéressantes. Si vous êtes encore utilisateur de Twitter, je pense qu'il y en a encore un certain nombre. intéressez-vous aux Twitter Files. Il y a pas mal de choses. Pour terminer, notre ami Cédric Champeau.
Je vous ai mis décidément, hein, c'est la journée des, enfin, ou l'épisode des rétrospectives, mais Cédric Champeau, donc qui travaille chez Oracle Labs sur Micronaut et anciennement chez Gradle, anciennement chez sur Groovy, etc., qui a une passion, et sa passion, c'est l'astronomie et en particulier l'astrophotographie. Et là, donc, il a écrit un long blog post qui décrit tout ce qu'il a fait, toutes les photos qu'il a faites tout au long de l'année, bah, en fonction un peu des conditions météo aussi, où il y a des photos, mais enfin, c'est Hubble, c'est le James Webb,
c'est bluffant,
c'est impressionnant tellement c'est beau et magnifique. Et en particulier là, les photos, il aime bien les photos des comment ça s'appelle, les trucs sombres là, les, tu sais, quand il y a de la poussière noire devant les étoiles et tout ça, je sais comment on appelle ça, les retrouve plus ça,
en français
je sais plus, les nébuleuses sombres, voilà, dark nebula, vu que c'était écrit en anglais. Et voilà, il nous offre des photos, enfin, que ce soit, il s'est quand même fait la lune aussi, voilà, il y a plein de nébuleuses magnifiques avec des couleurs incroyables.
C'est splendide, hein. Andromeda.
C'est un travail de fou, quoi.
Après, il a du matériel, il s'est équipé, etc., pour s'adonner à sa passion, hein. C'est pas, il fait pas ça avec son iPhone ou son Android
c'est clair.
Voilà, ouais. Il a pris du matos pour le faire, mais c'est splendide. Enfin, franchement, ça.
Et il a
ça
fait aussi, hein, pendant l'année, il a fait deux YouTube, je crois que c'était sur YouTube, hein,
sur. Oui, je sais plus, ouais, sur quoi il l'a fait.
La première partie, c'était sur son matériel, justement, ce qu'il utilise. Son télescope, les capteurs photographiques, comment il fait. Et puis aussi, deuxième partie, c'est plus, bah, justement, il y a un énorme travail, en fait, de traitement d'image. Donc, il y a des logiciels adaptés, ça fait pas tout seul. Donc, il faut que l'être humain soit là pour faire améliorer ses images le plus possible. Et aussi, je le rappelle, il a quand même aussi une dent contre Elon Musk pour une autre raison que Twitter ou les voitures électriques ou quoi, mais c'est pour la galaxie de satellites Starlink qui empêche, en fait, ça paraît pas, mais si vous regardez dans le ciel tous les soirs, vous allez voir tout le temps des satellites Starlink au-dessus de votre tête. Et en fait, quand vous faites de l'astrophotographie, et ben vous allez voir des traînées, des traces, des traits blancs, quoi, qui apparaissent. Et comment arriver à supprimer aussi toutes c'est ces traces qui nous empêchent, enfin qui empêchent les astronomes professionnels dans leurs observations, qui les embêtent bien, quoi, au quotidien. Donc voilà, pour vous faire rêver, pour terminer cet épisode.
Bon, on finit comme d'accoutumé avec les conférences très rapidement. Alors merci une fois de plus à Aurélie pour la maintenance de son repository communautaire sur toutes les conférences à venir. On va commencer directement. Oui, c'est ça. Faire la main, c'était compliqué. On va passer janvier parce que de toute façon, donc Touraine Tech, c'est très bientôt, c'est 19-20, c'est déjà sold out, etc. Donc fin janvier, vous avez Snowcamp aussi et la DocConf. Le Veritech Trip début février, ça c'est à Paris. Vous avez oui, c'est OVH. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc voilà, allez-y. Faites-vous plaisir. C'est sur une journée. Le 2 février aussi, vous avez Agile Le Mans. Vous avez, qu'est-ce qui nous intéresse? Le Kubernetes Community Days France. Ah, oui, donc c'est une première. C'est début mars. C'est le 7 mars. Le CFP vient de fermer il y a quelques semaines, enfin quelques jours, mais ça ne pas longtemps. Donc une journée sur Kubernetes, il y aura le papa de Docker que j'ai vu qui sera là, Solomon.
Solomon. Il n'est pas sera Solomon, là. Il est Solomon.
Oui, c'est Solomon. Hein, c'est ça. qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Bon, du DevOps France. Oh, déjà
en mois d'avril. Déjà en avril.
Ouais. Déjà en mois d'avril. Et puis bah les autres DevOps qui arrivent derrière. Grèce qui vient d'être promu en mois de mai, qui était un
grand, Vox des Athènes.
Vox Days Athènes et qui devient DevOps Grèce, voilà, et puis UK en mai aussi. Et en même temps, tiens, c'est bizarre, je ne le vois pas en même temps que nous à DevOps, mais il y a à Lyon.
Il y a Mixit aussi.
Bah oui, à Mixit, et je le vois pas. Bon, il ne va plus qu'à faire une PR dans la liste.
Ouais.
Mais il y a Mixit en même temps que DevOps France, c'est la même semaine.
Enfin, yes.
C'est le même jour. Voilà. Donc, regardez sur nos show notes ou sinon directement sur le site d'Aurélie pour toutes les prochaines conférences, les CFP qui sont ouverts. Et voilà.
Bah encore, meilleurs vœux à tous. Portez-vous bien.
Meilleurs vœux, bonne année, prenez soin de vous.
Code, bon, tout ce que vous voulez.
C'est ça, tout ce qu'il faut. Et puis, bah,
à très bientôt.
Allez,
ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.